train de voir dans le prestateur que la partie la plus importante, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont lu d'un bout à l'autre le livre de l'Héritage. C'est généralement un livre dans lequel on ne se hasarde pas facilement, et pourtant c'est le cœur du prestateur. Et donc, il a une importance vitale comme un cœur dans un organisme. Et il faut voir un peu comment lire ce texte. Alors, nous avons vu dans la Genèse qu'il y avait d'abord une introduction. Qui est une réflexion sur la création. Et sur la manière dont l'homme utilise cette création, qu'on appelle généralement le péché. Le péché étant ce qui va à côté de la ligne droite, donc ce qui ne se met pas immédiatement dans la ligne de la création. Et donc ça, c'est une problématique tout à fait générale, comme je voulais dire, avec les quatre points, Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé et ses fils, et les nations. Les quatre grands problèmes humains dans cette anthropologie. Puis à partir du chapitre 12, ça c'est 1 à 11, et à partir du chapitre 12, nous avons l'histoire des patriarches. L'histoire des patriarches, comme je vous l'ai dit, c'est un mode d'emploi un peu universel, un peu général. Qu'est-ce que nous faisons avec Dieu à travers trois problèmes fondamentaux, le problème de la descendance, c'est-à-dire le problème de l'homme par rapport au temps, la génération, le problème de la terre, c'est-à-dire le problème de l'homme par rapport à son environnement, le milieu dans lequel il se trouve, et que fait Dieu dans tout ça. Donc ça, c'est maintenant les trois problématiques que nous allons voir et qui s'entremêlent l'une l'autre un peu, hein, comme trois éléments qui se tressent. Et nous avons dans cette Genèse la reprise des éléments qui étaient ici, des éléments qui font l'homme, à partir du chemin de la civilisation, comme on bouge et qu'on déménage beaucoup à partir de là, et cette histoire d'Abraham et de Sarah, homme-femme, relation de génération, puis cette histoire d'Ésaü et Jacob, c'est-à-dire l'histoire fraternelle. Qu'est-ce que nous faisons avec le frère? Est-il ami ou ennemi? Y a-t-il une réconciliation possible? Qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça? Et puis, on ouvre alors Joseph et ses frères. À partir de la réalité de ce que nous appelons généralement la préférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque un est préféré. Nous ne voyons pas généralement les choses comme ça, parce que nous comparons, comme si on pouvait comparer des uniques. Et donc, c'est toute l'histoire de Dieu qui donne la vie là où elle n'est pas possible, Dieu qui rend la fraternité possible là où elle n'existe pas, et Dieu finalement qui donne un tout petit responsable de pays, Joseph, qui est un prisonnier, de monter toutes les chaînes, jusqu'à devenir vizir du pharaon. Donc dans un pays étranger beaucoup plus grand. Le plus petit, c'est vraiment le plus grand. Donc ça, c'est l'économie de Dieu à travers l'histoire des hommes. Et Joseph nous dit bien, à la fin, quel est le sens de l'histoire, c'est que Dieu travaille l'histoire pour donner la vie à un peuple nombreux. Donc voilà une certaine position du problème qui est tout à fait anthropologique. Alors nous avons le livre de l'Exode qui commence par une introduction de nouveau. construction se centre autour de Moïse. Moïse qui est médiateur entre Dieu et le peuple, il y a quelqu'un. Ça, c'est l'idée du médiateur qui vient de là-bas. La médiation est une grâce, donc une charge, une responsabilité à prendre et à vivre. Et nous avons vu quelle était la vocation du médiateur. C'est un homme qui est double, comme chacun d'entre nous, et qui doit petit à petit vivre la libération. D'abord libération intérieure, et puis devenir libérateur. Tout ça est déjà contenu dans la position du nom Moshe, qui est signalé dans une étymologie populaire dans la Bible, comme le sauvé qui va devenir sauveur. Quand on a fait une expérience personnelle, et cette expérience personnelle, quand elle est bénéfique, c'est pour en faire profiter les autres, bien entendu, mais jamais pour nous tout seuls. Nous ne sommes pas le centre de la création. Et alors, vient la vocation de Moïse, à partir du buisson à Adam, le buisson se dit en hébreu « Sené », c'est déjà une annonce de Sinaï, de la réalité du Sinaï. Et puis, une fois que le peuple s'est mis en branle, avec la permission arrachée au Pharaon, l'opposition est toujours présente dans notre vie, c'est toujours l'oppresseur, c'est toujours quelqu'un qui est oppresseur dans notre vie, plus la mentalité, la perception des choses, le système dans lequel nous vivons, etc. Ça correspond bien à cela. C'est une réflexion, tout l'exode, c'est une réflexion sur la liberté de la servitude, c'est-à-dire du travail dur, au service, le service de Dieu, qui est en fait liturgie. La liturgie, c'est le service de Dieu, mais le service de Dieu qui prend toute l'histoire humaine, bien entendu. Donc nous avons l'histoire du médiateur, et sa vocation, sa mission, et des altercations avec le pharaon, c'est-à-dire le pharaon désignant des puissances opposées, certaines puissances opposées. Alors, la puissance opposée la plus forte, celle qui veut nous annihiler, qui est Amalek, qui viendra par après. Puis nous avons l'expérience, une première expérience du désert, épreuve du fer. Avec les quatre mots que vous retrouvez, Mara, l'amertume, le mot Mara veut dire l'amertume, ce qui est amer, Mara, Massa, veut dire la tentation qui est une bonne chose en soi, puisque c'est l'invitation à la liberté, on vous met un obstacle pour vous sortir l'obstacle, c'est normal. On ne met pas pour que vous n'ayez rien à faire. Mara, Massa, Meriba, la contestation, ça va plus loin. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Dieu demande, mais est-ce que vous êtes vraiment avec moi? La contestation est aussi un point où la liberté peut naître. Mais il va plus loin, parce que généralement, Meriba, c'est un certain sentiment de révolte. C'est de nouveau, comme vous aviez un péché originel, comme vous aviez un péché originel dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob, un péché originel de Joseph et ses frères, il y a toujours des péchés originels. Il y a toujours, au moment où on reçoit un don, il y a toujours la tentation, l'invitation à la liberté, à dire non, à refuser. Nous verrons d'ailleurs ça encore après, ça revient sans cesse. Ici, vous avez aussi Moïse qui ne veut pas marcher, et Dieu l'oblige à marcher. Au désert, de nouveau, on murmure. Et c'est chaque fois, devant la difficulté, l'homme laisse tomber les bras. Et la difficulté est faite, justement, pour passer à travers. Et on arrive finalement à Kadesh. Kadesh veut dire la sainteté. Important parce que ça va annoncer justement le néolithique. Alors, vous avez l'histoire de l'Alliance à partir du chapitre 19. Nous avons vu que quand Moïse essayait par lui-même de mettre de l'ordre entre Hébreux et Égyptiens, il tue l'Égyptien. Il est soupçonné, quand il veut mettre de l'ordre dans le peuple, hein, avec un Hébreu, il dit, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc il s'en va. Et il fait, lui, d'abord, là-bas, l'épreuve de la liberté, il se marie, il devient pasteur, mais en devenant pasteur, il prend conscience du souci de ses brebis, donc il prend conscience du rôle qu'il a à jouer. Il avait reçu de Dieu le rôle qu'il a joué à son peuple. Et c'est à ce moment-là, en prenant conscience, qu'il s'en va trouver le pharaon. Puis on arrive avec le peuple qu'il a conduit à grande difficulté, parce que le peuple ne veut pas suivre, vraiment, les difficultés même que le peuple fait. Et on arrive à l'alliance du Sinaï. Et à partir du chapitre 19, à travers tout le livre du Lévitique et une partie du livre des Nombres, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 10e, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, l'histoire du Sinaï. C'est une histoire importante parce qu'elle est notre propre histoire. C'est une réflexion sur la conduite, le comportement de l'homme. De l'homme face à Dieu, dans le cadre, bien entendu, du peuple d'Israël. Et comme le peuple d'Israël est un peuple choisi, donc préféré, donc élu, c'est notre situation à chacun. Donc elle est exemplaire de toute situation humaine. L'alliance du Sinaï, et nous allons voir que cette alliance du Sinaï, à peine conclue l'alliance, au chapitre 24, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici les plans de construction du sanctuaire, de la tente de réunion. Tous les plans sont bien faits, et Moïse qui a été voir l'architecte divin au sommet de la montagne revient avec ses plans dans la poche. On va pouvoir se mettre à travailler. Eh bien non. Quand on descend, péché originel de nouveau, c'est le veau d'or. Qu'est-ce que Moïse trouve, hein, à la descente dans l'orange? Qu'est-ce qu'il trouve? Un veau d'or. Car ce Moïse, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Et alors, c'est toute cette histoire entre les chapitres 32 et 34 de la réconciliation avec Dieu cette fois-ci, cette alliance, que l'on peut appeler l'alliance de miséricorde. Restauration de l'alliance, moyennant une prière d'intercession, de médiation de Moïse. Et après cela, Baudor oblige, puisqu'on a fait une faute sur le plan du culte, on n'a pas trouvé le véritable culte au Seigneur, il y a la construction de la tente sacrée. Elle est construite, et non seulement elle est construite, mais tout à la fin, Dieu vient prendre possession de sa tente. Signe, s'il répond à ce qu'on lui a fait, qu'il répond à l'homme qui s'ouvre à lui. Donc voilà, en très gros de nouveau, le plan de l'Exode en utilisant le fil rouge. Vous savez que le fil rouge vient deux fois dans l'Écriture, c'est pas qu'il vient d'ailleurs, il vient une fois dans l'histoire de Judas et de Tamar, chapitre 38e de la, du livre de la Genèse, au milieu de l'histoire de Joseph, et puis une seconde fois, dans le livre de Josué, à l'entrée d'Israël dans le territoire de Canaan, c'est le fil rouge, de la maison de Rahab, la prostituée, qui introduit, c'est une prostituée, qui introduit dans Israël en Canaan. Tout ça est encore intéressant, mais ça c'est une autre histoire, c'est celle de, je vous l'envoie l'an prochain, c'est l'histoire de Deutéronome, c'est après le Pentateuque. Donc revoyons quelques éléments. Je reprends encore un peu la feuille 16 que je vous ai donnée la fois passée. 15 reprend grosso modo le tableau que je viens de vous faire. Vous avez à la page 16, donc le Exode chapitre 19. Et je vous ai dit que le chapitre 19 est très intéressant et très important, parce que il nous dit, si on prend le texte hébreu, 3 mois après leur sortie du pays d'Égypte, alors, dans la ville de Jérusalem, on a ce jour-là. En hébreu, c'est Hayom Hazé, aujourd'hui, ce jour-ci. Ah oui, la sortie d'Égypte maintenant. C'est l'actualisation du texte qui est déjà présent dans le texte. 3 mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les enfants d'Israël atteignirent le désert du Sinaï. On atteint le Sinaï, c'est-à-dire la présence de Dieu, la montagne, mais comme une épreuve. S'approcher de Dieu est toujours une épreuve. Car nous sommes loin, nous sommes autres. Nous avons une partie nôtre, une partie autre en nous. Le véritable autre, c'est Dieu. Et justement, dépasser cette partie autre pour unifier notre être, c'est tout le cheminement, notre cheminement, de l'Exode. Quelles sont les étapes que nous avons à traverser pour arriver à recevoir la grâce de la purification, c'est-à-dire de la libération de notre être propre, c'est-à-dire la véritable liberté. C'est ce que Dieu veut des hommes et des femmes libres. Alors, il y a déjà quelque chose qui est intéressant avant. Nous avons vu que Moïse avait des instincts de syndicaliste, il avait fait des études à l'université de Pharaon pour cela. Il connaissait bien la mentalité diplomatique et sociale. Mais qui voulait emporter le morceau par lui-même. Et Dieu lui dit non, c'est sous mes ordres que les choses doivent se faire. C'est à partir de Dieu que l'ordre peut se déterminer véritablement. Et alors, au chapitre 18e, il rencontre Jéthro, parce qu'il ne connaissait pas, c'est son beau-père, mais les traditions sont pas toujours tout à fait cohérentes entre elles. Et Jéthro, voyant travailler Moïse, dit non, c'est pas bien. Moïse doit toujours apprendre des étrangers, c'est-à-dire des non-juifs, des païens, doit toujours apprendre la manière de se comporter dans le monde. Et Jacques avait été sauvé par la fille de Pharaon, pour des raisons. Et maintenant, il s'y prend pas bien. C'est-à-dire qu'il prend sur lui toutes les causes. Il est le seul juge, un seul arbitre, médiateur, mais il en prend un peu trop. Et c'est son travail, c'est sa responsabilité. Et alors, il se fatigue, il passe les nuits à ça. J'ai trop qu'il a dû travailler, mais il n'est pas comme ça. Il y a un principe de substitution que tu n'as pas encore, il faut découvrir. Et tu peux tellement, ce qu'on appelle la subsidiarité aujourd'hui, tu dois te faire aider. Tu dois donner la possibilité, donc la formation, à d'autres personnes pour être juge en Israël. Et toi, tu te réserves les causes un peu plus difficiles, c'est-à-dire l'appel. Quand on va en appel, on vient chez toi. Mais pour les autres, bien, on peut faire des tribunaux de première instance, des juges de paix, on commence par là. et lui donne de bons conseils. Hein, ça, c'est le principe du gouvernement, conduire le peuple. Mais la réalité profonde, qu'est-ce qui va véritablement libérer l'homme? Mais, je dirais, ben, ce sont des lois. Les lois vont mettre une possibilité de faire travailler les choses ensemble. Hein, les lois sont faites pour déterminer un chemin, et si tout le monde obéit à la loi, hein, ce chemin sera beaucoup plus simple. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Mais, vous avez Dieu qui apparaît au Sinaï, et il apparaît comme il apparaît dans les peuples avoisinants, avec des signes, ou bien de l'éruption volcanique, il y en avait au Sinaï autrefois, ou bien la tempête dans le désert, c'est quand même un peu fort. Avec le vent qui emporte les tentes, quelque chose de une impression extrêmement forte dans les choses d'un but d'un le Seigneur qui éblouit, qui casse les cerveaux du vivant, une manière de dire une force exceptionnelle qui dépasse les forces de l'homme, transcendance autrement. Alors, Moïse descendit donc vers le peuple, je suis à la fin du chapitre 19e, Moïse descendit donc vers le peuple et leur dit, on ne sait pas quoi. Alors Dieu prononça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à l'intérieur des hommes. Et quand les hommes font des lois, ils obéissent au désir d'ordre qui est en eux, c'est-à-dire à une présence divine. Dieu prononça toutes ces paroles, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà. Nous avons déjà une histoire en commun. C'est moi qui t'ai fait sortir. C'est moi qui t'ai mené à travers le désert pour que tu vives en liberté et que tu ne sois pas esclave de l'Égypte ni dépendu du sol. Donc il faut maintenant renverser ta mentalité et recevoir des choses d'en haut. Nous l'avons vu avec la manne, les cailles et l'eau qui sort du rocher. Il vient d'en haut. Tout ça vient d'en haut. Donc il faut vraiment te renverser. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu ne savais pas qu'il y avait un Dieu dans tout ça. Bien, c'est moi. Il se présente comme une personne, un partenaire. Par conséquent, on va avoir d'autres dieux que moi. Un peu comme un futur époux, la veille de ses noces, qui dit à sa fiancée, tu te rappelles tout ce que nous avons vécu ensemble depuis le jour où nous nous sommes connus, toute la transformation que nous avons vécu l'un et l'autre. Par conséquent, tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Tu ne te feras pas d'immaculté, tu ne vas pas mettre toutes sortes de photos de grands chanteurs, etc. dans ta chambre. Tu ne te prosterneras pas devant tes dieux. Tu n'entreras pas de Dieu ou de Dieu. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en tout. Le nom, le seul nom qui est dans ta bouche, c'est moi présent. Souviens-toi du jour du sabbat. Et de temps en temps, il faut qu'on aille manger ensemble et qu'on revive ce que dans les équipes Notre-Dame on appelle le devoir de s'asseoir, c'est-à-dire la joie d'être ensemble. Hein? Eh bien, on va reparler de ensemble. Souviens-toi du jour du sabbat, un jour où congé pour tout le monde. Honore ton père et ta mère, ah réveillez, on dit la voix des parents, hein. Puisque c'est par eux que nous vient la vie. On va reconnaître que la vie vient de bien d'autre. C'est tout à fait normal. On voit bien que c'est. Il y a toute une logique dans ce décalogue. C'est ça, un doigt dans la main. Et puisque la vie vient de Dieu à travers tes parents, tu ne tueras pas. Tu n'attenteras pas à la vie d'autrui, à la vie physique d'autrui. Tu ne commettras pas l'adultère, ça c'est sa vie intime. Elle n'ira pas t'immiscer dans son amour. Tu ne colleras pas, ça ce sont ses biens. Tu ne porteras pas témoignage mensonger contre ton prochain, c'est sa réputation. Et tu ne convoiteras pas. Et tout ça commence quand on convoite. C'est-à-dire quand on veut prendre, quand mon désir qui est promesse, on en fait une convoitise. On le prend pour soi. On se fait le centre du monde, on refait le péché originel. Voilà. C'est tout simple. Tout simple. Ça, c'est le, la manière, le mode d'emploi de l'homme. Et nous avons deux tables, cinq, qui sont croisées, qui sont liées l'une à l'autre. Oui, c'est très bien ça, ce sont des principes généraux. Il faut les mettre en musique, et on les met en musique en reprenant le droit qui a existé lorsque, venant du désert, on est venu habiter dans, en sédentarisation, dans le pays. Et alors, vous avez un certain nombre de lois que nous trouvons d'ailleurs en grande partie aussi dans les lois autour des lois babyloniennes, par exemple, si vous regardez le code de Hammurabi, on trouve beaucoup de prescriptions qui sont tout à fait semblables. Et on va lier à cela un certain nombre de manières de vivre ensemble. C'est le chapitre 22, un autre code qui est plutôt un code intérieur, de loi morale et religieuse. Ce comportement extérieur demande une attitude intérieure. Et on va essayer de façonner, c'est une éducation, façonner cette perception intérieure des choses, et puis alors, en gros, les fêtes. Très bien. Tout au long de l'année, montrer le rapport qu'il y a entre la nature, ces fêtes sont généralement d'abord empruntées aux Cananéens, pour la fête de la nature, qui se grossissent alors d'une perception historico-théologique. Ça c'est le passage à l'histoire, quelque chose d'important, c'est spécifique à Israël, parce qu'il était réalité cosmique dans la nature, devient maintenant, ce se grossit, un texte, donc une sorte de valeur ajoutée, dirions-nous, une réalité historique. On fait mention d'une histoire. L'histoire est vraiment importante parce que l'histoire qui, pour les peuples en général est contingente, elle pourrait être tout à fait différente, tandis que, vue sous le regard de Dieu, elle est essentielle. Et alors, conclusion de l'alliance. On va conclure l'alliance, et par deux fois, vous trouvez dans le chapitre 24 de la conclusion de l'alliance, toutes les lois qu'a décrétées le Seigneur, nous les mettrons en pratique. Et même, nous les mettrons en pratique, et nous y obéirons, dit le texte de 24 au verset 7, mais l'hébreu dit, nous ferons et nous écouterons. C'est en faisant que nous découvrirons le sens. Les peuples environnants, les païens, ce qu'on appelle les païens ou les idolâtres, ils veulent d'abord comprendre avant de faire. L'hébreu, il fait d'abord. Où est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Et en faisant, il découvre pourquoi, donc il se pose des questions, et il découvre pourquoi il doit faire comme cela. Donc il découvre son appartenance à un peuple qui met au centre de sa vie la présence de Dieu, par des dieux. Donc voilà, la conclusion de l'alliance, qui va être reprise par Jésus lors de la dernière scène. Et vous avez une belle célébration, là, au chapitre 24e, et quelque chose d'important. Moïse mit par écrit toutes les lois du Seigneur, et le lendemain, au point du jour, il bâtit un autel au bas de la montagne. Ah, voilà que la montagne va devenir un autel. Et un autel portatif. transporter à travers toute cette pérégrination. Donc la montagne devient une mini-montagne, mini-montagne symbolique, et cette mini-montagne va accompagner le peuple d'Israël. C'est comme ça que je lui dis, hein, mon Sinaï marche avec moi, c'est-à-dire la présence de Dieu qui m'est donnée, elle continue de vivre avec moi aujourd'hui. Et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il donne la mission de jeunes Israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de commun. On fait un sacrifice, nous allons y venir d'ailleurs, pour déterminer l'alliance. Et alors, Moïse recueille la moitié du sang, il l'a mis dans le bassin, en réserve. Et puis il projette l'autre moitié sur l'autel. Le sang, c'est la vie. Dieu donne sa vie librement. Il donne la vie. Donc on met le sang sur l'autel qui symbolise cette présence. Et puis quand le peuple a dit tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettons en pratique, alors on projette le sang sur le peuple. Vous êtes du même sang que Dieu. Vous êtes de la même vie que Dieu. Et donc vous avez fait un passage. De même que Dieu, du haut de la montagne, est devenu présent à vous sur un petit autel, il vous a rencontré. Maintenant, vous avez rencontré Dieu dans son propre sang. C'est toute la symbolique du sacrifice qui est déjà présente ici. Et puis, Moïse monta accompagné d'Aaron et de ses fils, hein, Nadab et Abihu, et de 70 des anciens d'Israël, hein, qui, dans la tradition juive, symbolise les 70 nations du monde. Toutes les nations étaient déjà présentes au Sinaï. Ils contemplèrent le Dieu d'Israël, sous ses pieds s'étendait comme un pavement de saphir semblable au ciel lui-même par sa pureté. Il ne porta pas la main sur les notables des enfants d'Israël, ils purent contempler Dieu, ils mangèrent et ils burent. Signe que l'on partage un autre. Et pour pérenniser, pour continuer, cette présence de Dieu, pour un signe, on va lui faire une tente au Seigneur. On va y mettre ses commandements, symbolisés par les deux tables de la Torah. Et on va donc, et cette tente, avec cet autel portatif, hein, qui va accompagner le peuple à travers le désert, montrera que Dieu est avec le peuple. Il vit avec le peuple. Quand on a un problème, on va le trouver à la tente de réunion. C'est ce qui va se passer. Mais il faut faire une tente, la fabriquer d'une manière spéciale. Et on comprend très bien que puisque quand une chose se trouve en germe, c'est déjà la réalisation finale qui s'y trouve, eh bien on va vous raconter les plans. Monsieur l'architecte va vous raconter cette histoire de la construction de la tente, un peu à l'image de la construction du temple de Jérusalem. En minute, bien entendu. Enfin, avec les moyens du bord, les moyens qu'on peut avoir dans le désert. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On va construire la tente pour que le peuple puisse bien découvrir, malgré ses ennemis d'alentour, malgré les difficultés à s'approvisionner, pour que le peuple puisse bien découvrir que Dieu est présent au milieu du peuple. Il a quitté en quelque sorte ses hauteurs pour devenir présent au peuple. C'est un image du temple. Mais attention, dangereux un temple. Dangereux. Parce que un temple, une tente ça va encore parce que ça vole. Mais si on construit dans le mur, on va enfermer. Ça c'est le grand danger. Notre grand danger, c'est d'enfermer Dieu. Enfermer Dieu, hein, c'est le mettre à notre mesure. C'est-à-dire le rendre en quelque sorte compréhensible, donc contrôlable. Alors attention, parce que ça, c'est l'idolâtrie en plein. Au lieu d'adorer Dieu, j'adore mon idée de Dieu. Dangereux, ça. Ça va. Eh bien, c'est ce qui se passe. Après, les plans sont-ils faits? Chapitre 31, lorsqu'il eut fini, fin du chapitre 31, lorsqu'il eut fini de s'entretenir avec Moïse, le Seigneur lui remit les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est Moïse ou c'est Dieu qui écrit? Pourtant Dieu n'a pas de main pour écrire. Ben oui, il a la main de Moïse, je pense. Mais écrire, première fois, premier personnage qui écrit dans la Bible. Écrire, c'est livrer aux générations suivantes. Mais attention, l'écrit, c'est dangereux. Lui aussi. Toujours dangereux quand même quand on arrive avec Dieu. Quelque chose qui vient de lui. Parce que ça nous dépasse. Et nous n'aimons pas ce qui nous dépasse, alors on sera mort. Parce que écrit, c'est livrer à l'interprétation. Écrire, c'est une tentation. Voilà, toute tentation. Donc, tu es mis en liberté. Est-ce que tu vas prendre le texte à toi? Ou est-ce que tu vas l'écouter jusqu'au bout? Tous les dons de Dieu sont toujours des mises en liberté, donc des tentations. Ce que l'homme a le plus de mal à recevoir, c'est la liberté. Parce qu'il veut toujours la déterminer de façon précise. Et qui est mon prochain? Quand je sais qui est mon prochain, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Oh, catastrophe. Tu n'es plus libre. La liberté n'est plus en toi, la présence de Dieu n'est plus en toi. Elle se détermine uniquement par les choses extérieures. C'est exactement le mot d'or. Et vous avez vu que, vous avez vu le texte, je ne sais combien de fois, on commence par faire une collecte. Qu'est-ce que vous avez à donner? Un pendant d'oreilles, des colliers, tout ce qui est un peu précieux. Et voilà que, je lis le texte. Le peuple s'attroupa, voyant que Moïse ne redescendait pas. Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter d'Égypte, par exemple, qui nous a fait monter d'Égypte, nous ignorons ce qui lui est advenu. Aaron leur répondit, ôtez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Tous ôtèrent donc les anneaux qu'ils avaient aux oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci, les ayant reçus de leurs mains, fit fondre le métal dans un moule, et il en coula une statue au. Et c'est à table. C'est bizarre. Comme si c'était une surprise. Alors ils s'écrièrent, voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ce que voyant, Aaron bâtit un autel devant la statue et annonça, demain, fête en l'honneur du Seigneur. On voit toute l'ambiguïté d'Aaron. Il est mené par le peuple, il se laisse faire par le peuple. Et alors, c'est comme le veau d'or, c'est pas le veau d'or qu'on adore, hein, attention. On adore, le veau d'or est un piédestal. Les dieux, on trouve beaucoup d'images dans le Proche-Orient ancien, le Hadad, le dieu du tonnerre, là, qui chevauche toujours un taureau. C'est-à-dire, l'animal qui symbolise la fertilité, la fécondité, la force. Donc si tu veux avoir une image de Dieu, c'est pas Dieu lui-même, tu veux avoir une image de Dieu pour t'aider, vous voyez, il y a le danger, hein. Pour t'aider, eh bien, voilà, un mot qui symbolise le piédestal de Dieu. Un totem, quoi. Et alors, c'est très beau, hein. Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, dit le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse qui se trouve encore au dixième étage, au haut de la montagne, allons, redescends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte a pris la rivière. Tout de suite, péché originel, immédiat. On ramène à soi, à ses proportions. Et alors, Moïse, le médiateur, c'est pas facile. S'efforça d'apaiser le Seigneur, son Dieu. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, ton bras étendu par ta main puissante. Et puis il se renvoie la balle. Voilà le dialogue, comme nous disons. On va discuter ensemble. Il ne faut pas rester très loin. Et alors, Moïse prend le chemin du retour, il brise les deux tables pour montrer au peuple, c'est une manifestation, une révélation au peuple, qu'il a péché et donc qu'il a cassé les tables. Mais s'il a cassé les tables, il ne sait pas les réparer. Il faut que Moïse taille de nouvelles tables et que Dieu vienne pour faire la réparation. Ça veut dire que Dieu fait toujours tout le travail. Et alors, nouvelle prière de Moïse, évidemment, un des Lévites, qui met de l'ordre dans tout ça, tout ce qui est idolâtre en quelque sorte. C'est une manière de dire, mais vous avez mis autre chose à la place de Dieu. Nous faisons ça constamment, nous mettons toujours les images de Dieu à la place de Dieu. Dieu est toujours au-delà des images, nous, hein, ne pas représenter Dieu lui-même. Et puis il y a un renouvellement d'alliance, taille de table de pierre semblable aux premières, monte vers moi sur la montagne, et puis Dieu apparaît. Et Dieu apparaît comme un nom qui passe. Seigneur, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme dans la communauté a tué, ils ont vu, attention, c'est un tueur, c'est un assassin. Les enfants disent, c'est un fils de l'assassin. C'est le petit-fils de l'assassin. Après cela, on a oublié. Troisième, quatrième génération, c'est peu de choses. Hein. Ce sont des réalités humaines. Aussitôt Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna. Et il prononça ces mots, « Si vraiment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne, mon Seigneur, nous accompagner. Oui, c'est un peuple la nous crède, mais pardonne nos fautes et nos péchés, et fais de nous ton héritage. » Il rentre au fond dans le désir de Dieu. Et voilà que Moïse devient vraiment le médiateur. Puis Moïse redescend la montagne, on se met en marche, et on construit le sanctuaire. C'est drôle hein, qu'on construit le sanctuaire après quelqu'un d'autre, alors qu'on connaît tous les dangers, précisément parce qu'on les connaît maintenant. On sait qu'on va pouvoir mettre la main, être tenté de mettre la main sur. On le sait. Et donc on est mis en liberté puisqu'on le sait. Et alors, les ordres divins sont exécutés, et finale du livre de l'Exode, au chapitre 40e, tout à fait la finale, la nuée couvrit la tente de la de réunion, et la gloire du Seigneur, avec sa présence, remplit la demeure. Il est là. Moïse ne put pénétrer dans la tente de réunion, à cause de la nuée qui reposait sur elle et de la gloire du Seigneur dont la demeure était remplie. C'est pas le Moïse qui c'est pas Moïse, c'est pas le médiateur qui travaille. Hein, c'est Dieu qui rend. C'est la présence de Dieu qui est importante. Toutes les autres, ce sont des lieutenants, ce sont des expressions, mais c'est pas Dieu. Il ne faut jamais prendre l'homme pour un Dieu. C'est la nuée. Et la nuée, c'est le mystère. Je ne peux pas poigner dans la nuée, ça va pas. Je ne peux jamais la prendre à moi. Mais lui, il remplit quand il veut. Il est tout à fait libre. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les enfants d'Israël se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils attendaient pour continuer leur route le jour où elle s'élevait à nouveau. Car le jour où la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée, visible à toutes les maisons d'Israël, à toute la maison d'Israël, et il en fut ainsi dans toutes leurs étapes. Très bien. La tente est construite, la présence de Dieu chemine avec Israël, et le peuple est prêt. 19e, Mamleket Kohanim Goy Kadosh, le peuple est un royaume de prêtres et un peuple saint. On va falloir expliquer tout ça. C'est le prêtre, c'est le peuple d'Israël qui est prêtre, qui est sacerdotal, c'est le peuple. C'est le peuple qui est porteur de cette présence de Dieu qu'on a. On commence à comprendre. Mais, il faut qu'il y en ait quand même dans le peuple, une certaine, ça va être la tribu de Lévi, bien sûr, une certaine tribu qui va prendre ce service en charge. Tout le peuple est prêtre, mais ce sont quelques personnes dans ce sacerdoce qui vont faire le service, c'est-à-dire le ministère, mais qui vont représenter tout le peuple. Se souvenir de tout cela, évidemment, quand on parle de sacerdoce aussi dans le Nouveau Testament. Et nous avons alors le Lévitique. Eh bien, le Lévitique devrait alors commencer par parler des prêtres, parce que nous avons la tente. Eh bien, il ne va pas parler d'abord des prêtres, mais c'est pour ça que je mets au-dessus, il y a toute une construction. Nous allons voir la fois prochaine les nombres et le Deutéronome qui vont faire le pendant. C'est comme une grande cathédrale qui se construit ici. Eh bien, on va vous parler d'abord des sacrifices. Tiens, on devrait d'abord parler des prêtres, normalement. Eh bien non, on ne commence pas à parler des prêtres. Parce que les prêtres doivent savoir ce qu'ils doivent faire, quand même. Ils doivent savoir, en tout cas, ils doivent savoir comment faire pour pouvoir comprendre ce qu'ils font. Et puis, on va avoir ici le sacerdoce. Il va venir seulement ici. Et puis, nous allons avoir toute une explicitation de ce qui est rituellement bon ou pas bon à faire pour le peuple,